Il y a d'autres informations. Sinon, je vous propose donc de commencer le séminaire au regard de son conférencier. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un que nous connaissons tous. Alors, faut-il le présenter, Alain? Nous sommes vraiment heureux de pouvoir t'entendre sur l'affaire Dreyfus et cet anniversaire. Je dis quand même deux mots parce que sinon, c'est pas drôle si on ne dit pas un mot ou deux, même si ce sont des personnes que nous connaissons bien. Donc, Alain, c'est un travail monumental de critique littéraire et d'intellectuel, hein, depuis toute la réflexion sur le naturalisme, son histoire, ses formes, ses cénacles, jusqu'au bilan critique qu'il a pu réaliser à travers de multiples ouvrages. C'est un spécialiste de l'épistolaire, des correspondances zoliennes, depuis la correspondance générale dans ce grand projet franco-canadien des années 80, jusqu'à la correspondance intime, assumée aussi avec une édition où Madame Brigitte-Émile Zola était partenaire et d'autres collègues de l'ITEM, jusqu'à la correspondance internationale, projet récent que nous menons ensemble. Et puis Alain, c'est bien sûr aussi cette affaire Dreyfus, dans tous ses états, depuis la dimension la plus historique jusqu'à la réception la plus littéraire. Et c'est aussi, il faut le souligner, une réflexion intellectuelle, culturelle, importante sur la transmission de la littérature à travers des présidences de jury de CAPES en particulier, publication et direction de manuels scolaires pour le lycée. Enfin, voilà, l'ensemble des travaux d'Alain, je résume ça en quelques minutes, c'est vraiment fulgurant. Je te prie de m'en excuser, Alain, parce que ça pourrait être très très long. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes heureux, je crois, tous de t'entendre sur l'affaire Dreyfus. Dans Émile Zola, un intellectuel dans l'affaire, tu écrivais dans la préface, je crois, deux grands ouvrages de synthèse ont été publiés déjà sur l'affaire Dreyfus, dont l'ouvrage de Bredin. Et tu disais, en dépit de ces synthèses, nous n'arriverons jamais à faire le tour complet de l'affaire Dreyfus, quoi qu'il en soit. Et donc, je trouve que c'est extrêmement intéressant aujourd'hui, toi qui es parmi les grands spécialistes de l'affaire Dreyfus, de t'entendre sur ce propre pari. Peut-on faire le tour de l'affaire Dreyfus ou a-t-on encore des énigmes, encore des choses à dire, à expliquer sur cette affaire Dreyfus? Voilà, Alain. Donc, je te laisse la parole.
Merci. Oui, je crois que dans ce séminaire que nous avions décidé de consacrer aux anniversaires, il était important d'insister sur le 120e anniversaire de J'accuse et donc de revenir sur l'affaire Dreyfus. Vous avez entendu en janvier un exposé qui était tout à fait passionnant d'Andrew Counter, qui est d'ailleurs enregistré sur le site des cahiers, comme vous le savez, intitulé « Zola, Wilde, Dreyfus et le Christ ». Passion fin de siècle, qui s'est intéressée notamment à l'image du Christ telle qu'elle est présente dans le discours dreyfusard. Je voudrais donc vous proposer un deuxième exposé ou un second exposé sur J'accuse, en mesurant ce que disait à l'instant Olivier, qu'il est évidemment très difficile de parler sur l'affaire Dreyfus alors que tant d'articles, d'études, d'ouvrages existent sur ce sujet et que on peut se dire qu'il n'est pas utile d'ajouter un commentaire de plus. Je vais essayer justement d'être un peu dans un commentaire supplémentaire et sans trop répéter ce qui a été dit. Je ne reviendrai pas sur l'effet extraordinaire produit par le J'accuse que publie Zola le 13 janvier 1898, dont l'article, vous savez, a bouleverser le cours de l'affaire Dreyfus. Je vous renvoie notamment aux merveilleuses pages qu'Henri Mitran a écrites sur ce sujet dans le tome 3 de sa biographie où il montre combien le J'accuse a véritablement été une révolution dans tous les sens du terme. Je ne reviendrai pas non plus sur l'écriture de J'accuse, sur sa composition interne, sur ses effets rhétoriques. Tout cela a été beaucoup étudié. Non, ce que j'essaierai de faire, le point de vue que je voudrais adopter, ce serait de reprendre au fond l'histoire de cet article de presse, revenir sur cet objet médiatique qu'a été J'accuse et réfléchir à la façon dont il s'est inséré dans l'espace médiatique de cette fin de siècle. Alors j'aborderai successivement quelques points pour essayer de creuser cela. D'abord, je m'interrogerai sur le rôle de Clémenceau, dans cette histoire. Puis j'essaierai de voir comment ce texte de Zola a pu s'afficher sur les murs de Paris le 13 janvier 1898. Je reviendrai aussi sur la genèse, en allant vite d'ailleurs, de l'article, mais en réfléchissant à cet article qui devait à l'origine être une brochure. Je parlerai aussi des deux pétitions qui ont suivi et qui me semblent importantes et qui ont en quelque sorte prolongé dans l'espace du journal l'intervention de Zola. J'évoquerai, on en parlait à l'instant, une interview de Zola, peu connue, très peu connue, qui a été publiée le 24 janvier 1898, quelques jours après. Et enfin, en conclusion, je reviendrai sur, en effet, pourquoi pas, sur la vérité historique que contient aujourd'hui le récit de J'accuse et peut-être sur cette énigme qui, pour certains, existe encore concernant l'affaire Dreyfus. Voilà. Alors, commençons par Clémenceau. Clémenceau est l'auteur du titre « J'accuse ». Cela, vous le savez, cette information qui relève au fond d'une certaine précision historique, érudition historique, elle est devenue banale aujourd'hui. Les articles de presse qui se consacrent à J'accuse, les textes que l'on trouve sur Internet qui évoquent J'accuse, les magazines qui aujourd'hui parlent de l'affaire Dreyfus, ne manquent pas de rappeler que Clémenceau a trouvé le titre « J'accuse ». Au fond, cette information, on la retient. Elle fascine, on la souligne parce qu'évidemment elle a quelque chose de paradoxal. Comment Zola, cet écrivain dont la célébrité est tellement liée à la publication de J'accuse, dont la gloire posthume est tellement liée à cette publication de cet article extraordinaire, comment il ne serait même pas l'auteur du titre de cet article. Il y a dans cette remarque, dans cette information que l'on retient, une sorte d'antisolisme finalement. Je pourrais faire du Barès, vous voyez, ce Barès de 1908 qui a tellement hurlé si fort contre la panthéonisation de Zola en disant qu'il était scandaleux de mettre le cercueil de Zola à côté de celui de Hugo dans le Panthéon, eh bien je pourrais, comme Barès, ricaner en disant que cet homme qu'on a enterré au Panthéon n'est même pas l'auteur du titre de l'article pour lequel il a été enterré au Panthéon, car c'est ce que disait Barès, on enterre au Panthéon Zola uniquement parce qu'il a écrit un article un jour dans un journal. Alors évidemment, tout cela relève d'une vision caricaturale, et si vous regardez, puisque vous pouvez vous appuyer sur l'exemplier que je vous ai distribué, si vous regardez la première page de l'Aurore, ce qui m'intéresse ici, le titre, vous voyez que le titre de Zola existe toujours, ou plutôt qu'il y a trois titres. Il y a d'abord ce fameux J'accuse qui prend toute la largeur de la page sur six colonnes, puis il y a le titre « Lettre au président de la République » par Émile Zola, sur six colonnes et deux lignes, et enfin le titre initial, le titre originel, celui que Zola avait prévu, « Lettre à Monsieur Félix Faure, président de la République », qui se trouve en tête de l'article lui-même, en haut de la première colonne. Donc Zola n'a pas été dépossédé du titre qu'il avait conçu, ce titre subsiste, « Lettre à Monsieur Félix Faure ». C'est d'ailleurs le titre qu'on retrouvera plus tard dans « La vérité en marche », quand Zola rassemblera dans un recueil ses articles, le titre « J'accuse » est absent de « La vérité en marche ». Zola ne le reprend pas, vous ne le trouvez pas. Et d'ailleurs, Zola, quand il parle dans ses notes personnelles de son article, ne dit jamais « J'accuse », il dit toujours « Ma lettre ».« Ma lettre au président de la République ». Et je note que ceux qui lui écrivent, ceux qui le soutiennent, le félicitent, ces innombrables lettres que nous avons qui arrivent rue de Bruxelles en janvier ou en février 98, ceux qui lui écrivent lui disent « votre lettre au président de la République ». Donc les deux titres coexistent, bien sûr, l'un, on le voit, est générique, « Lettre à Monsieur Félix Faure », l'autre est plutôt thématique, c'est « J'accuse ». Alors, qu'est-ce que c'est que J'accuse? Eh bien, au fond, c'est tout simplement le titre donné par la rédaction de l'Aurore, qui d'ailleurs donne une information redondante, lettre au président de la République. J'accuse, c'est une manchette. C'est un titre à la une, pratique banale dans la presse de l'époque, comme aujourd'hui. Pour signaler l'importance d'un événement, on crée une une, on met un titre sur six colonnes, et effectivement, pour l'Aurore ce jour-là, l'événement qu'il s'agit d'annoncer, c'est bien cette lettre au président de la République. Cet événement, c'est le seul dont le journal parle, et cet événement, d'ailleurs, il le crée, le journal, puisqu'il lui consacre quasiment la moitié de son numéro. Alors, il faut se reporter à l'ouvrage de souvenirs publié par Ernest Vaughan, le directeur de l'Aurore, pour disposer d'un témoignage précis nous permettant de comprendre comment les choses se sont déroulées le 12 janvier 1898, dans la soirée, quand la rédaction de l'Aurore a pris la décision de publier le texte de Zola. C'est la première citation que vous avez sous les yeux. Voici ce que dit Vaughan. Nous cherchions un titre plus énergique pour cette œuvre admirable dont la lecture nous avait enthousiasmés. Je voulais faire un grand affichage et attirer l'attention du public. Clémenceau me dit, mais Zola vous l'indique lui-même, le titre, il ne peut y en avoir qu'un, j'accuse. Donc on voit dans ce témoignage qui est essentiel deux choses. D'une part que ce sont Clémenceau et Vaughan, tous les deux ensemble, les responsables de la rédaction du journal qui trouvent la manchette en réfléchissant à la façon dont il fallait présenter l'article de Zola, et que Clémenceau se contente au fond d'indiquer à Vaughan que le titre existe déjà. Il suffit de lire la fin de l'article, de reprendre le mot qui est répété 9 fois dans la conclusion. Zola est quand même l'auteur de fameux titre, hein, puisque c'est le mot-clé de la conclusion. Je dirais que Clémenceau se peut réagir en lecteur attentif, en lecteur inspiré, mais il est vrai que son acte est essentiel. Ce transfert d'un simple mot, de la conclusion de l'article à la tête du journal, est évidemment un geste essentiel qui aura des conséquences formidables sur le succès que va rencontrer J'accuse. Dans son histoire de l'affaire Dreyfus, Reynac, Joseph Reynac, vous savez, qui est le grand témoin de cette époque, qui a écrit une histoire merveilleuse de l'affaire Dreyfus en 5 tomes publiés au début du XXe siècle, une histoire qui reste encore notre grande source de connaissance de l'affaire Dreyfus, puisque nous avons à la fois un historien et un témoin. Reynac fait, à propos de Clémenceau, une remarque que je trouve intéressante, c'est ma deuxième citation. Il écrit ceci en évoquant l'état d'esprit de Zola le 10 janvier 1898, c'est-à-dire le moment où on est en train de juger Esterhazy devant le conseil de guerre qui allait l'acquitter. Vous savez que le procès d'Esterhazy se déroule le 10 et le 11 janvier 1898 et que ce jour-là, on acquitte le coupable, c'est-à-dire qu'on condamne une deuxième fois l'innocent Dreyfus. Et voici ce que dit Reynac. Il eut en outre une crainte d'artiste qu'il m'a avoué, point banal, qu'un autre eût son idée en même temps que lui ou que Clémenceau, peut-être, la lui prit. Une remarque extraordinaire quand on la regarde de près. Elle est difficilement compréhensible, car Clémenceau n'aurait pas pu voler à Zola son idée, car à ce moment-là, il n'est pas du tout sur les mêmes positions que lui. Clémenceau, lui, à ce moment-là, nous sommes le 10-11 janvier, ne se prononce pas sur l'innocence de Dreyfus. Il ne sait pas, il dit qu'il ne sait pas, il dit qu'il se contente d'être révisionniste, c'est le mot des Dreyfusards à cette époque, c'est-à-dire qu'il demande qu'on revoie le procès, il demande qu'on respecte la règle, le droit, car il pense que Dreyfus n'a pas été condamné en fonction d'un procès équitable. Et Clémenceau n'est pas à cette position, on le sait grâce à différents témoignages, dont celui d'Urbain Goyer, que je cite, qui était un des membres de la rédaction de l'Aurore et qui nous apprend ceci. « J'étais dans le bureau de Clémenceau, contigu au mien, quand Vaughan a monté de l'imprimerie les épreuves humides de J'accuse. Clémenceau les a lues avec attention, me les a données à lire ensuite, m'a demandé mon avis. J'ai répondu que c'était terrible et que nous nous étions placés depuis le début sur un autre terrain, non pas l'innocence, mais le jugement inadmissible, la nécessité de la révision. Clémenceau m'a répondu en propre terme, c'est Zola qui a écrit le papier, Zola qui le signe, Zola qui prend toute sa responsabilité. Dès le lendemain, je rétablirai notre position, notre thème. » Et effectivement, c'est ce que fera Clémenceau dès le lendemain, dès le 14 janvier. Il écrit dans son éditorial de l'Aurore, que je vous lis, c'est la citation suivante. « J'approuve hautement Vaughan d'avoir offert à Zola l'hospitalité de l'Aurore, mais si j'ai tenu à l'honneur de céder pour un jour ma place à l'homme courageux qui, dans l'universelle lâcheté où nous nous décomposons, osait l'acte hardi pour la justice et pour la vérité, je me dois à moi-même de dire que mon attitude demeure inchangée. » Ce n'est point par tactique que j'ai refusé, dès le premier jour, de me laisser entraîner à proclamer l'innocence de Dreyfus. Je ne puis pas admettre qu'on ait consenti à condamner cet homme s'il n'y avait eu rien au-delà du bordereau et de l'expertise grotesque de Bertillon. Pour le moment, sans affirmer une innocence dont je n'ai point de preuve, je me borne à demander la loi égale pour tous, car les garanties de justice ne peuvent être supprimées à l'égard d'un seul sans que le corps social tout entier soit menacé dans son ensemble. Je cite le texte de Clémenceau dans l'édition qu'en a donnée Michel Drouin à mémoire du livre, mais c'est un texte que vous retrouvez évidemment sur l'Aurore, qui, comme vous le savez, se trouve en ligne sur Gallica, mais qu'on me permette de rendre hommage à la mémoire de Michel Drouin, dont les travaux sur Clémenceau sont tellement importants. Donc on voit bien, par cette citation, que Clémenceau n'aurait pas pu dérober à Zola son idée. Mais il y a quand même quelque chose de juste dans cette remarque de Reynac. Zola éprouve en effet, à ce moment-là, à l'égard de Clémenceau, des sentiments quelque peu comparables à ceux qu'il éprouvait face à Scherer-Kestner quelques semaines plus tôt, lorsqu'il lui déclarait, la lettre est bien connue, le 20 novembre 1897, c'est-à-dire juste avant de se lancer lui-même dans l'affaire, le 20 novembre, il déclarait ceci: « Vous ne sauriez croire combien votre admirable attitude si calme au milieu des menaces et des plus basses injures m'emplit d'admiration. Il n'est pas de plus beau rôle que le vôtre, quoi qu'il arrive, et je vous l'envie. » Donc, effectivement, on peut penser que Zola, qui mesure à ce moment-là que celui qui parle, c'est Clémenceau, dans ses éditoriaux quotidiens de l'horreur, Scherer, lui, s'est tu à arrêter de parler. Pour lui, c'est fini depuis le mois de décembre. On peut penser que Zola se sent en quelque sorte en concurrence, lui qui parle désormais dans l'affaire Dreyfus, avec Clémenceau. Il y a entre eux, à ce moment-là, en ce début d'année 98, une sorte de concurrence qui se joue. Et il peut penser que Clémenceau va le devancer, montrer peut-être cette audace qu'il a envie d'avoir pour saisir l'occasion qui se présente au moment où il le sait, il l'a deviné, ça il l'a pressenti, Esterhazy va être acquitté. Et je me reporte à un article de Clémenceau qui paraît le 7 janvier 1898, un éditorial de Clémenceau que je trouve tout à fait intéressant et qui s'intitule « C'est dommage ». Telle est la citation que je vais vous lire, que je vous propose. Cet article se compose en effet d'une suite de paragraphes qui commencent tous par la même formule, une sorte de litanie. Vous avez compris, évidemment, la relation que je vais faire avec le J'accuse. Voici ce que disait Clémenceau le 7 janvier 1898. « C'est dommage que les citoyens s'abandonnent au lieu de réagir contre les pouvoirs publics qui trahissent leurs devoirs. C'est dommage que nous ayons perdu la foi, même erronée, en l'approximation humaine de justice. C'est dommage que l'appellation de juif, de protestant, de libre-penseur ou de catholique nous paraisse une justification des violences exercées contre ceux qui ne partagent pas nos croyances. C'est dommage que la haute vertu de tolérance soit maintenant bannie de l'esprit français. » Puis ça continue ainsi, et je saute plusieurs lignes dans l'article pour arriver à la conclusion, à la péroraison. Voici les dernières lignes. « C'est dommage que la France, d'abord soldat de Dieu, plus tard soldat de l'homme, soit si brutalement réveillée de son rêve d'idéal. C'est dommage que nos aïeux, ayant été grands, nous soyons moindres, car ce fut un noble pays, cette universelle patrie de la justice pour tous, aimé de tout ce qui espérait au droit, redouté de tout ce qui abusait de la force. Voyez ce que nous avons fait et dites avec moi que c'est dommage. » Et vous sentez, vous entendez déjà, en effet, ces paroles que l'on entendra dans quelques jours sous la plume de Zola, les paroles du J'accuse. L'article de Clémenceau est fondé en effet sur l'écriture du leitmotiv que J'accuse va reprendre avec tant de vigueur, plutôt que la conclusion de l'article de Zola va reprendre avec tant de vigueur. Les alinéas sont détachés comme les strophes d'un poème, la phrase est relancée par une anaphore initiale, comme le sera exactement la péroraison de l'article de Zola. Mais évidemment, les choses sont très différentes. Zola va corriger le « c'est dommage » de Clémenceau en « j'accuse ». C'est-à-dire que ce qui est un regret constaté par Clémenceau, formulé à la troisième personne, avec une sorte d'effacement même de l'énonciation, va se transformer en une accusation à la première personne, un acte de parole, cet acte de parole si célèbre du J'accuse de Zola. Le « c'est dommage » de Clémenceau, parole de renoncement, tournée vers le passé, se transforme, avec la voix de Zola qui prend le relais, en j'accuse, parole de combat tournée vers l'avenir. Et donc on comprend la remarque de Reynac, finalement, qui est juste, c'est que en lisant le « C'est dommage » de Clémenceau, Zola a pu craindre, non pas que Clémenceau ne lui prenne son idée, mais que Clémenceau n'utilise un rythme stylistique ou un rythme syntaxique dont il avait lui-même l'idée. Il y a entre eux, d'une certaine façon, moins une concurrence sur le plan politique qu'une concurrence sur le plan de l'écriture, sur le plan stylistique. Car il est évident que le « C'est dommage » de Clémenceau est en partie la matrice du texte de Zola. Et d'ailleurs, au même moment, en ce jour du 7 janvier 1898, paraît la brochure de Bernard Lazare, la dernière brochure, la troisième brochure, plus petite que les deux autres, dans laquelle Bernard Lazare, les spécialistes de Bernard Lazare ont souvent fait cette remarque, donc je ne fais que la reprendre, écrit lui aussi « J'accuse hein, ». Il accuse, il écrit deux fois le verbe « j'accuse », il accuse Esterhazy, il accuse Dupaty de Clam. Donc voilà comment se jouent les choses en ce début du mois de janvier, au moment où J'accuse est déjà dans l'esprit de Zola, avant que le procès d'Esterhazy ne soit conclu, cette sorte de belle, magnifique, finalement, concurrence stylistique, rhétorique entre Clémenceau et Zola. Tel était mon premier point. Je passe maintenant à un deuxième point, l'affiche. J'accuse, voilà ce que je voudrais vous proposer, c'est une affiche. C'est une affiche. Je partirai de cette citation de Peggy que j'aime beaucoup, qui est connue, que Peggy reprendra dans son article qu'il publiera en décembre 1902 dans les cahiers de la quinzaine après la mort de Zola, et qui dit ceci. « Il y eut un sursaut. » C'est Peggy qui commente la publication de J'accuse le 13 janvier 1898. Il y eut un sursaut. La bataille pouvait recommencer. Toute la journée dans Paris, les camelots à la voix éraillée crièrent l'aurore, coururent avec l'aurore en gros paquets sous le bras, distribuèrent l'aurore aux acheteurs empressés. Ce beau nom de journal, rebelle aux enrouements, planait comme une clameur sur la fiévreuse activité des rues. Le choc donné fut si extraordinaire que Paris faillit se retourner. Voilà ce que dit Peggy avec sa voix unique et magnifique. J'accuse, nous dit-il, c'est un article qui a été crié dans la rue, un article pour ces crieurs de journaux qui ont vendu ce jour-là, vous le savez, les 300 000 exemplaires de l'Aurore, ce petit journal qui tirait habituellement à 20 000 ou 30 000 exemplaires ce jour-là, voit son tirage multiplié par 10. Mais ce journal n'a pas seulement été crié dans les rues par les camelots qui le vendaient, il s'est aussi affiché sur les murs de Paris. Et c'est peut-être une chose qu'on n'a pas jusqu'ici soulignée, sur laquelle je m'interroge d'ailleurs devant vous aujourd'hui en formulant l'idée. Ernest Vaughan, le directeur de l'Aurore, que je viens de citer, décrit et dit dans ses souvenirs, je reprends la citation que je vous ai déjà donnée, « Je voulais faire un grand affichage et attirer l'attention du public. » Il ajoute un peu plus loin dans le même passage, « Mes affiches furent apposées dans la nuit du 12 au 13 janvier 1898. »« Mes affiches furent apposées dans la nuit du 12 au 13 janvier 1898. » Effectivement, regardez le titre de l'Aurore, en reprenant la première page de l'exemplier que je vous ai donné, le mot « j'accuse » est écrit en caractère d'affiche. Ce sont des lettres de grande dimension, des lettres à large empattement qui tranchent sur les titres en lettres capitales courants des unes de l'époque que les journaux utilisent habituellement. Les typographes de l'Aurore, d'ailleurs, vont utiliser un corps, le corps 72, qui restera dans leur mémoire comme le corps J'accuse. Hein. C'est un corps particulier, un corps qu'on utilise pour imprimer des affiches. Donc ce mot J'accuse, c'est au fond un mot qui doit se voir de loin, car c'est une affiche. Je ferai sur l'écriture, simplement sur la graphie de ce titre J'accuse, trois remarques. D'abord, au début du mot, vous le voyez, deux majuscules. Alors qu'en réalité, on pourrait n'en avoir qu'une pour que le titre existe. Hein. Le J majuscule serait suffisant, mais le fait d'ajouter une majuscule supplémentaire, le A de J'accuse, qui d'ailleurs est la première lettre de l'alphabet aussi, permet de détacher le pronom du verbe et de donner encore plus de visibilité au verbe. Et puis surtout, à la fin du verbe, la ponctuation, la double ponctuation est surprenante. C'est une ponctuation redondante, comme le sont les majuscules du début. Vous avez trois points de suspension et un point d'exclamation. Les points de suspension ouvrent évidemment sur ce qui va être dit, et le point d'exclamation anticipe sur ce que la parole aura comme force. Hein. La première ponctuation est une ouverture, elle invite à la lecture, elle crée un effet d'attente, alors que la seconde ponctuation relaie le sens du verbe, le définit d'emblée comme cette parole accusatrice qu'il doit posséder. Et elle anticipe cette seconde ponctuation sur ce message qui va être délivré avec force. Troisième remarque, ces deux ponctuations, les points de suspension et le point d'exclamation, sont nécessaires. Pourquoi ? Parce que elles comblent ces deux ponctuations un vide syntaxique. Elles permettent que le titre soit lisible, car on se demande, quand on lit simplement cette première page, avant d'avoir lu le texte, mais que peut-être beaucoup ne liront pas vraiment, finalement, car le titre suffira. On se demande qui Zola accuse. Le lecteur attend une affirmation, car il sait que Zola défend Dreyfus, telle que Esterhazy est coupable, donc j'accuse Esterhazy. Mais Zola, comme vous le savez, à la fin de son texte, n'accusera pas, justement, Esterhazy. Ça, c'est ce qu'a dit Bernard Lazare le 7 janvier dans sa brochure. Il a dit « j'accuse Esterhazy ». Zola ne répète pas ce que Bernard Lazare a dit. Il va beaucoup plus loin, il accuse dans la péroraison de son texte les responsables de la machination politique dans laquelle Dreyfus est enfermé. Il accuse les responsables de l'état-major, les ministres de la guerre successifs, je vous renvoie à cette fin, mais que vous connaissez évidemment, car elle est tellement célèbre. Il accuse Mercier et Billot, les deux ministres, il accuse les experts imbéciles, il accuse la presse nationaliste, les deux conseils de guerre qui se sont succédés. Son j'accuse, et c'est sans doute sa force, ne désigne pas un individu particulier, il ne s'exerce pas ad hominem, mais il possède une valeur globale, car il s'en prend à un système politique qui s'est montré défaillant. Je relis la citation de la fin, une citation de la fin. « Quant aux gens que j'accuse, dit Zola, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai contre eux ni rancune ni haine, ils ne sont pour moi que des entités, hein, des entités, des esprits de malfaisance sociale. » Voilà, pour dire les choses en termes grammaticaux, au fond, « j'accuse », qui est un verbe transitif, qui appelle un complément d'objet, devient, dans la présentation qu'en fait l'aurore, un verbe intransitif. Et c'est sans doute cette intransitivité, c'est-à-dire cette accusation globale, qui s'en prend non pas à des hommes particuliers, mais à un système, qui fait évidemment la force du texte que l'aurore publie. Alors, le « j'accuse » de Zola a suscité dans la presse anti-Dreyfusarde, toutes sortes de répliques, toutes sortes de réponses. Je voudrais en citer trois, car je les trouve intéressantes. Et je les trouve intéressantes non seulement parce que ce sont des réponses au texte de Zola, mais parce qu'elles répondent aussi du point de vue graphique. La réponse la plus célèbre, la plus connue, est celle de Drumont, qui dès le lendemain, hein, dès le 14 janvier, publie en première page de la Libre Parole un article où il dénonce de façon pesante l'action du syndicat juif, mais qui est intitulé « J'accuse ». Hein, lui aussi, il dit « J'accuse ». Et lettre de Drumont au président de la République. La présentation est exactement identique. Lettre Drumont, on a le même dispositif que l'aurore possédait, avec même la même graphie, la même impression, les mêmes lettres. Les typographes de la Libre Parole ont choisi le même corps de caractère. C'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, ils peuvent d'autant plus que les deux journaux sont imprimés par le même imprimeur, parce que tous ces journaux sont imprimés rue du Croissant, dans le même quartier. Et au fond, ce sont les mêmes ouvriers typographes qui les fabriquent l'un et l'autre. Mais les ateliers, quand même, de composition sont différents. Alors, vous avez vu, sans doute, Drumont dit « j'accuse », mais il ne le dit pas tout à fait de la même façon. Il dit « j'accuse », point d'exclamation, point de suspension. C'est-à-dire qu'il inverse la ponctuation. Au fond, le point d'exclamation pour Drumont, s'il précède les points de suspension, c'est sans doute pour montrer l'absence d'hésitation que Drumont possède. Son « j'accuse » n'exprime aucun doute. Hein. Ce que dit Drumont, c'est qu'il connaît toute la vérité, que tout cela est l'action du syndicat juif. Et il veut le dire, lui, à son tour, dans une lettre qu'il écrit au pauvre Félix Faure, qui n'arrête pas de recevoir toutes sortes de lettres. Les aura-t-il lues, d'ailleurs ? C'est une question qu'on pourrait se poser. Alors, cette imitation graphique est fascinante. On retrouve dans La Patrie du 16 janvier 98, tout de suite après, une même reprise, mais alors chacun veut apporter sa touche personnelle. La Patrie qui nous propose cette fois-ci un je prouve en reprenant la même ponctuation, trois points de suspension et point d'exclamation, mais c'est le verbe qui varie, non pas j'accuse mais je prouve. Et je voudrais vous signaler, c'est mon troisième exemple, la reprise graphique tout à fait intéressante du Psit de Forain et de Carandache. C'est un hebdomadaire cette fois-ci, non plus un quotidien. Il est lancé peu avant que ne s'ouvre devant la cour d'assises de la Seine le 7 février le procès de Zola. Il est lancé le 5 février, il durera quelques mois. C'est le fameux hebdomadaire antisémite de Forain et de Carandache. Et le premier numéro nous propose un pont patriote, hein, c'est ainsi que les mots sont écrits, un chacuse qui nous dessine, la couverture montre une figure de juif traître, enfin qui glisse dans une guérite militaire, une liasse de dénonciations calomnieuses. C'est évidemment la caricature antisémite qui nous est proposée, mais ce qui est intéressant, c'est que le titre du journal, hein, ce sera une inversion du mot j'accuse. Parce que vous le voyez, vous avez la fameuse ponctuation des point de suspension et du point d'exclamation, et à la place du j'accuse en lettres majuscules, un titre en lettres minuscules, hein, il n'y a même pas de majuscule initiale, un psit, c'est-à-dire un signifiant vide, une onomatopée du dédain qui remplace le verbe qui possède un sens de Zola. Au sens de Zola, au j'accuse de Zola, Forain et Carandache opposent le vide d'un signifiant onomatopée. Voilà, une onomatopée qui est celle de leur dédain et de leur mépris. Alors, cette affiche, telle que le titre la met en avant, elle s'est évidemment retrouvée sur les murs de Paris. J'hésite un peu à le dire, mais je vais évidemment continuer en affirmant cela. Il me semble qu'on en trouve un souvenir assez clair, d'une certaine façon, dans la parodie d'Anatole France, L'île des pingouins, qui paraît en octobre 1908, au moment d'ailleurs où les cendres de Zola viennent d'être transférées au Panthéon. Dans le roman d'Anatole France, Zola est représenté par un personnage qui s'appelle Colomban. Ce n'est pas un romancier, c'est un écrivain laborieux, nous dit Anatole France. C'est un écrivain qui est l'auteur de 160 volumes de sociologie pingouine. Voilà comment Colomban est présenté dans L'île des pingouins. Anatole France, qui est ironique, à la fois évidemment c'est un grand roman de Dreyfusard, L'île des pingouins, mais c'est aussi un roman du désenchantement, car nous sommes en 1908, donc il y a une partie de pensée disons, ou nostalgique ou négative. Enfin, en tout cas, Anatole France le montre, ce Colomban, sortant un jour de son domicile, un pot de colle à la main, et décidé à coller des affiches sur les murs. Il n'écrit pas un article, il ne publie pas un article, mais il colle des affiches. Hein. Et voici le passage, un petit homme myope, renfrogné, tout en poil, sorti un matin de sa maison avec son pot de colle, une échelle et un paquet d'affiches, et s'en alla par les rues, collant sur les murs des placards, où se lisait en gros caractère « Pirot est innocent, Mobeck est coupable ». Dans le roman, vous l'avez compris d'ailleurs, Mobeck c'est Esterhazy et Pirot c'est Dreyfus. Alors, vous vous demandez peut-être, et c'est la question que je me pose en terminant sur ce point, quelle apparence avait cette affiche j'accusais ? J'avoue que j'ai un peu de mal à y répondre, car je n'ai jamais vu, dans une exposition consacrée à l'affaire Dreyfus, l'affiche j'accuse, au fond. Je ne l'ai jamais vue. Et j'ai posé la question à différents amis collectionneurs. J'ai aussi posé cette question à des spécialistes de la presse qui, comme moi, ne savent pas quelle réponse me donner. Mais la réponse que je vous donne, et je crois que l'hypothèse est juste, c'est que ce qui s'est affiché sur ces murs de Paris, évidemment, Vaughan n'a pas pu faire imprimer une affiche spécifique qui aurait été comparable, par exemple, à une affiche annonçant, comme le font souvent les journaux, un feuilleton qui va paraître dans le journal. Évidemment, ce qui a été collé sur les murs de Paris, c'est la première page de l'Aurore, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que le titre « J'accuse » a été imprimé pour que l'affiche puissent être collées sur les murs. Et au fond, cette affiche, elle a un titre que l'on voit, hein, j'accuse, et puis elle a une image texte que l'on lira plus ou moins, qui est le texte imprimé sur les 6 colonnes. J'ajouterai cette remarque que c'est donc un placard, c'est d'ailleurs ce que dit Anatole France, j'accuse, c'est peut-être, en employant un terme d'origine chinoise, un dazibao, hein, d'une certaine façon, le j'accuse de Zola correspondrait bien à ce qui, en Chine, est appelé un dazibao, c'est-à-dire un journal collé sur un mur par un citoyen, car ce jour-là, ce qui est dans l'horreur, ce n'est pas la ligne éditoriale du journal, on vient de le voir. Clémenceau dit « notre ligne, elle est différente hein. ». C'est plutôt la parole personnelle d'un citoyen qui, tout d'un coup, s'est imprimé dans ce journal. Donc c'est une sorte de dazibao, en effet, comme le sont les dazibao en Chine, où un citoyen décide de communiquer à ses concitoyens sa propre pensée en collant une affiche sur un mur. Voilà pour l'affiche. Je passe maintenant à un troisième point que j'aimerais développer. J'accuse, c'est une brochure. Vous le savez, hein, l'article de Zola, ce n'est pas le premier dans l'affaire Dreyfus, c'est en fait la sixième intervention de Zola dans ce combat qu'il a commencé le 25 novembre 1897 avec un article qui s'intitule « Monsieur Scheurer-Kestner » où il défend Scheurer-Kestner dans le Figaro. Puis ensuite, il y a le syndicat, le 1er décembre 1997, toujours dans le Figaro. Puis il y a procès verbal, un bel article de synthèse sur la folie antisémite. Et enfin, deux brochures qui paraissent, la première le 14 décembre, c'est la lettre à la jeunesse, peut-être la plus célèbre aujourd'hui, texte qui est souvent cité, souvent repris, qui circule beaucoup d'ailleurs sur Internet, et enfin la lettre à la France le 7 janvier 1898. Donc on voit bien, hein, lettre à la jeunesse le 14 décembre, lettre à la France le 7 janvier, j'accuse, est en fait la troisième brochure que Zola devait publier chez Fasquelle. Pour sa longueur, c'est un texte qui a la longueur, non pas d'un article de journal, mais d'une brochure imprimée, j'accuse, fera 16 pages, exactement comme la lettre à la jeunesse ou la lettre à la France. C'est un texte qui fait 28 000 signes, pour vous donner des précisions, bien plus long, bien sûr, qu'un éditorial de journal de l'époque, qui fait 5 à 6 000 signes. Les éditoriaux de Clémenceau dans l'Aurore sont de 6 000 signes, c'est-à-dire 5 fois moins. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de la genèse de j'accuse, qui mériterait sans doute beaucoup de développement, mais je voudrais juste commenter ces idées-là, enfin, développer ces idées-là. D'une part, dire comment, au fond, la décision a été prise de la transformation de la brochure en article, et comment aussi la brochure a quand même été publiée. Transformation de la brochure en article, pourquoi ? Eh bien, Zola cherche à obtenir un procès, la provocation judiciaire et constitutive de son geste. Et il écrit dans ses notes, cette citation que vous avez sous les yeux, « Ma lettre au président de la République, elle est sortie de moi en un cri. Je choisis un journal au lieu d'une brochure pour me faire faire un procès de presse. Hein, » C'est ce qu'il dit lui-même dans ses notes. Et on peut s'interroger quand même sur cette affirmation, parce qu'il aurait pu tout à fait obtenir un procès en diffamation avec la publication d'une brochure chez Fasquelle. La loi sur la presse de 1881, sur laquelle il s'appuie pour réclamer le procès en délit de diffamation, évidemment, concerne autant les brochures que les articles de presse. Hein. Mais cette brochure, elle aurait été tirée à 20 000 exemplaires. Elle aurait eu moins de retentissement. Elle n'aurait pas été collée sur les murs de Paris. Elle aurait évidemment eu une diffusion tout à fait différente et peut-être que le gouvernement de Méline aurait eu la sagesse, de son point de vue, de ne pas la lire et de ne pas la juger scandaleuse. Évidemment, Zola a raison. Hein. C'est la publication dans un journal, même un petit journal comme l'Aurore, mais qui ce jour-là devient un grand journal, comparable aux grands journaux qui tirent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. C'est la publication dans l'Aurore qui rend le j'accuse scandaleux. Et on voit comment Zola est passé de la première idée qu'il avait, publier une brochure, demander encore à Fasquelle de le soutenir, à cette idée, évidemment, qui va tout changer qui consiste à publier dans un journal en allant voir Clémenceau. Je vous cite ce texte de la lettre à Le Blois du 6 janvier 1998, que j'ai d'ailleurs moi-même édité dans le tome 9 de la correspondance que j'ai réalisée avec Owen Morgan, à la mémoire de qui aussi j'aimerais aujourd'hui rendre hommage. Eh bien, voici ce texte, la lettre de Le Blois du 6 janvier 1998. Je sors de chez Clémenceau, il est prêt à faire ce que nous désirons de lui, seulement il désire causer avec vous, et je lui ai promis que nous serions tous les deux chez lui ce soir à 5h30. Je serai donc chez vous à 5h avec une voiture, et nous irons ensemble rue Flanquelin. C'est vraiment une lettre de rendez-vous, mais elle est évidemment essentielle, car elle montre l'accord que Zola, par l'intermédiaire de Le Blois, qui a toujours été un homme essentiel dans cette histoire, car c'est Le Blois qui a mis Zola en contact avec Scheurer-Kestner, comment la publication s'est faite, jusqu'au dernier moment, quand même, il faut le dire. Vaughan et Clémenceau hésitent, hein, le 12 janvier au soir, ils se rendent compte qu'ils risquent beaucoup, mais ils se lancent dans la bataille. Alors, publication quand même de cette brochure, car Zola le dit lui-même, et d'une façon tout à fait étonnante, dans ce texte que je vous ai donné, que vous avez sous les yeux, c'est le texte qui est publié par Zola lui-même, dans La Vérité en Marche, cette petite notice liminaire dont il accompagne chacun de ses textes quand il publie son recueil, et il dit lui-même, hein, en éditant son j'accuse, qu'il n'appelle pas j'accuse, comme je vous l'ai dit, sa lettre au président, il dit ceci: « Ces pages ont paru dans l'Aurore le 13 janvier 1898. Ce qu'on ignore, c'est qu'elles furent d'abord imprimées en une brochure, comme les deux lettres précédentes. Au moment de mettre cette brochure en vente, la pensée me vint de donner à ma lettre une publicité plus large, plus retentissante, en la publiant dans un journal. L'Aurore avait déjà pris parti, avec une indépendance, un courage admirable, et je m'adressais naturellement à elle. » Alors c'est étonnant, parce que Zola édite son texte et il écrit quelque chose de faux. Hein, évidemment, c'est impossible. On ne peut pas imaginer que dans cette journée décisive du 12 janvier, Zola ait couru chez son éditeur Fasquel, que Fasquel ait commencé à imprimer une brochure, que Zola se soit ravisé et qu'il soit allé trouver Clémenceau. Alors c'est compliqué peut-être, mais enfin on comprend pourquoi Zola se trompe, ou pourquoi Zola condense dans ce texte liminaire de La Vérité en Marche deux informations, car quand même, J'accuse a été publié en brochure. Hein. Elle a le titre, l'article a été publié en brochure, car cette brochure existe. Une brochure existe, on ne peut en douter, des exemplaires existent chez certains collectionneurs, mais elle n'a pas été mise en vente. Donc c'est une brochure qu'on ne trouve pas à la Bibliothèque nationale. On trouve la lettre à la jeunesse, bien sûr, et la lettre à la France, mais on ne trouve pas la brochure J'accuse, qui est au fond une brochure privée. Elle a été imprimée avec le même format, la même couverture de couleur jaune, la même typographie que les deux lettres précédentes, mais seulement sur la couverture, vous ne voyez aucun prix indiqué, alors que la lettre et la jeunesse et la lettre à la France ont été vendues à 10 centimes. Donc c'est un document rare d'ailleurs, que ce J'accuse imprimé en brochure, que les collectionneurs recherchent, car évidemment c'est une brochure qui n'a jamais été soumise au dépôt légal. Alors on voit la condensation des deux informations. À l'origine, J'accuse était une brochure. J'accuse a quand même été imprimé sous forme d'une brochure, mais la brochure est restée dans les magasins de Fasquel, qui ne l'a pas mise en vente. Mais que la brochure soit postérieure à l'article de l'Aurore, on ne peut en douter. Quand on compare les deux textes, on voit que la brochure comporte des corrections par rapport au texte de l'Aurore. Donc on voit bien qu'elle est postérieure. Il suffit d'une petite analyse philologique pour le montrer. D'ailleurs, je conclus en vous disant que J'accuse comporte quatre états quand on regarde les choses. Hein. Vous avez le manuscrit autographe de 39 feuillets dont Brigitte-Émile Zola possède une copie qu'elle pourra peut-être faire circuler. Le manuscrit autographe de 39 feuillets qui est en ligne sur Gallica. Premier état, donc. Deuxième état, l'article de l'Aurore qui est publié exactement à partir du texte du manuscrit, mais dont il faudrait faire quand même une analyse critique, car les ratures sont intéressantes. Puis troisième état, la brochure Fasquel de 16 pages qui comporte quelques corrections. Par exemple, pour vous donner un exemple simple de correction, au début du J'accuse, Zola dit « le colonel du Paty de Clam, et dans la brochure, il dit le lieutenant-colonel du Paty, hein, il corrige. De même, tantôt il appelle Picard colonel, tantôt il appelle lieutenant-colonel, et dans les éditions ultérieures, dans la brochure et dans La vérité en marche, il dira toujours le lieutenant-colonel, car Picard était lieutenant-colonel et non pas colonel. Mais on l'appelait colonel, car vous savez qu'un lieutenant-colonel, on l'appelle dans l'armée mon colonel. Donc il y a cette confusion qui est naturelle et que Zola corrige quand il édite le texte de La vérité en marche. Une petite parenthèse pour vous dire que Picard, au fond, lieutenant-colonel, n'a jamais été colonel, hein, car il est passé directement en 1906, au moment où l'affaire se termine, du grade de lieutenant-colonel au grade de général de brigade, et ensuite, quelques jours plus tard, il sera ministre, comme vous le savez, hein, ce qui est l'un des retournements extraordinaires de l'affaire Dreyfus pour cet officier qui avait été emprisonné et chassé de l'armée quelque temps auparavant. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur la brochure, sur ce double statut au fond du texte de Zola. Et maintenant, j'aimerais parler des pétitions qui me semblent quelque chose d'intéressant et qui sont une sorte, au fond, de prolongement de l'article de Zola dans l'espace du journal. Immédiatement après la publication de l'Aurore, deux pétitions paraissent dans les journaux Dreyfusard, dans l'Aurore d'abord, puis dans Le siècle et le temps, enfin ils ne sont pas nombreux. Deux pétitions, il y en a d'autres plus tard qui paraîtront, mais je regarde les deux premières, car elles paraissent immédiatement après. La première paraît le 14 janvier, la seconde le 15 janvier. Vous avez les textes sous les yeux. La première pétition s'intitule « Une protestation ». Elle dit ceci, « Les sous-signés protestant contre la violation des formes juridiques au procès de 1894 et contre les mystères qui ont entouré l'affaire Esterhazy persistent à demander la révision. Le temps, le siècle, l'aurore publient ce texte. Et puis une deuxième pétition commence à paraître le 15 janvier. Le texte est un peu plus long. C'est une pétition et non une protestation. Elle est adressée à la Chambre des députés. Elle dit ceci. Les sous-signés, frappés des irrégularités commises dans le procès Dreyfus de 1994, du mystère qui a entouré le procès du commandant Esterhazy, persuadés d'autre part que la nation tout entière est intéressée au maintien des garanties légales, seule protection des citoyens dans un pays libre, étonnés des perquisitions faites chez le lieutenant-colonel Picard et des perquisitions non moins illégales attribuées à ce dernier officier, émus des procédés d'information judiciaire employés par l'autorité militaire demandent à la Chambre de maintenir les garanties légales des citoyens quant à l'arbitraire. C'est, vous le savez, la première pétition qui est restée la plus célèbre. On l'a qualifiée de manifeste des intellectuels. Les listes se succèdent, ces deux pétitions, dans les jours qui viennent. Elles auront chacune à peu près 20 listes. Hein, 20 listes. Alors, quelques remarques sur ces deux pétitions. Première remarque. C'est connu, donc je ne fais que le rappeler, le répéter. Ces pétitions manifestent l'émergence de ces fameux intellectuels. Le mot, vous le savez, surgit à cette époque, s'insère dans la langue française. Étant adjectif, il devient nom. C'est exactement à ce moment-là, en janvier 1898, que ce néologisme lexical s'insère dans la langue. Le meilleur commentaire de cette notion d'intellectuel, de ces intellectuels qui signent, qui mettent souvent après leur nom leurs diplômes universitaires pour montrer qu'ils ont cette qualité d'intellectuel. Le meilleur commentaire que l'on puisse faire de ce phénomène, c'est sous la plume de Boris Barrès, hein, qu'on peut le trouver. Je vous cite cet article qui est connu, lui aussi, du journal, qui s'intitule d'ailleurs « La protestation des intellectuels » et qui, dans le style extraordinaire de Barrès, dit très bien les choses. Hein. « Peut-être, lisez-vous, une double liste que publie chaque jour l'Aurore, quelques centaines de personnages, y affirment en termes détournés leur sympathie pour l'ex-capitaine Dreyfus. Ne trouvez-vous pas que Clémenceau a trouvé un mot excellent, ce serait la protestation des intellectuels. On dresse le bottin de l'élite, qui ne voudrait en être, c'est une gentille occasion que de licencier, d'ailleurs titulaire de licence bien sûr, ils marchent en rang serré avec leurs professeurs, rien n'est pire que ces bandes de demi-intellectuels. » une demi-culture, détruit l'instinct sans lui substituer une conscience. Tous ces aristocrates de la pensée tiennent à affirmer qu'ils ne pensent pas comme la ville foule. On le voit trop bien, ils se sentent plus spontanément d'accord avec leur groupe naturel et ils ne s'élèvent pas jusqu'à la clairvoyance qui leur restituerait l'accord réfléchi avec la masse. Pauvres nigauds qui seraient honteux de penser comme de simples Français. Hein, et c'est évidemment une belle polémique. Hein. On le voit, Barrès s'amuse, il critique ces intellectuels, ces licenciés marchant derrière leurs professeurs, ces intellectuels qui ne sont en fait, dit-il, que des demi-intellectuels et qui veulent se distinguer de la ville foule. Hein. Il y a évidemment quelque chose de très moderne, je trouve, dans cette réflexion de Barrès, cette condamnation d'une élite. Hein. Elle nous fait penser tout à fait à ce langage populiste que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit d'attaquer les élites. Alors, au propos de Barrès, j'aimerais opposer, pour faire contrepoint, ça me semble important, les propos de Reynac, qui, avec lui aussi cette écriture magnifique qu'il caractérise, dit ceci, « Et chaque matin, les journaux publiaient de nouvelles listes de protestations. Maintenant que la foule ameutée faisait publiquement l'appel des traîtres et des flétries, il se trouva jusqu'à 3000 citoyens pour répondre présents. Toutes ces convictions, jusqu'alors captives, qui s'étaient formées en silence depuis 3 mois, mais non sans souffrance, l'acte de Zola les a délivrées. Elles se fussent fait honte désormais si elles étaient restées cachées, si elles n'avaient pas réclamé leur part d'opprobre. Rien ne les obligeait hier. Aujourd'hui, le courage de Zola, s'offrant au coup, eut transformé leur sympathie muette en lâcheté. La joie fut de crier sa pensée, de l'avoir criée. Hein, c'est un texte superbe, je trouve. Reynac écrit comme les grands historiens de l'Antiquité, comme un Tacite, par exemple. Et il est toujours extrêmement agréable de relire Reynac. Alors, faut-il distinguer les textes des deux pétitions? C'est la question que je voudrais poser. À vrai dire, ce n'est sans doute pas nécessaire. Reynac, d'ailleurs, ne le fait pas dans son histoire de l'affaire Dreyfus, mais on peut malgré tout s'interroger sur le sens de ces deux pétitions qui prolongent l'une et l'autre J'accuse, car dans les deux cas, les mots ont été choisis avec beaucoup de précision. La première pétition, la plus courte, c'est donc une pétition, vous le voyez, révisionniste, hein, puisque le mot de révision est employé. Elle demande simplement la révision du procès de Dreyfus, et c'est la position majoritairement dreyfusarde, c'est celle de Clémenceau. La deuxième pétition est plus longue. Elle développe les motivations de ceux qui signent, elle s'adresse à la Chambre, et en dépit des apparences, bien qu'elle énumère les motifs d'indignation, elle est beaucoup plus modérée. Hein, elle ne parle pas de révision, le terme n'est pas employé, ceux qui signent sont frappés des irrégularités commises, ils se disent étonnés, émus. Ils se contentent de demander aux députés de maintenir les garanties légales des citoyens quant à l'arbitraire. Qui est à l'origine de ces pétitions? Reynac le dit, Philippe Auriol le dit très bien aussi dans sa grande histoire de l'affaire Dreyfus qui vient de paraître en 2014. Mais il suffit de se reporter au journal de Daniel Alévy qui a été publié pour le savoir. Qui est à l'origine? Eh bien, c'est Lucien R. et le groupe des jeunes gens de la Revue Blanche qui l'entoure. Et Philippe Auriol, d'ailleurs, note bien que Lucien R., à ce moment-là, à cette volonté de multiplier les pétitions. Donc, il lance 2 pétitions que ceux qui vont les signer vont confondre plus tard dans leurs souvenirs, mais il lance 2 pétitions pour attirer le plus de signataires possible. Donc, il y en a une qui est plus dure que l'autre, finalement, et paradoxalement, c'est plutôt la première qui est plus dure que la seconde. Hein. Nombreux sont ceux qui vont évidemment signer les 2 pétitions aussi. Mirbeau, par exemple, signe les 2 pétitions. Il signe la première le 14 janvier. Il signe la seconde le 16 janvier. Son nom figure au début de la 2e liste de cette pétition, et non pas au début de la première, comme on a pu le dire, à côté de Paul Alexis. Hein. Mirbeau signe à côté de Paul Alexis. Et les autres médaniens, pour dire un mot d'eux, c'est-à-dire Séard, Wismans et Hennig, en passant, lui est mort, ne signent pas, bien sûr. Hein. Ils ne signent pas. Eux, ils sont du côté anti-Dreyfusard, nettement du côté anti-Dreyfusard, que ce soit Séard, Hennig Huysmans, et plus tard, Hennig ira d'ailleurs parmi les manifestants qui se grouperont devant les grilles du palais de justice en février 1898 pour crier « Vive l'état-major, vive l'armée, à bas les traîtres !» Voilà ce que va crier Léon Hennig pendant le procès de Zola. Il le regrettera plus tard, mais enfin, il l'a avoué dans une lettre à Séard, donc je ne le calomnie pas. Voilà, ces pétitions, elles sont intéressantes, elles présente évidemment quelque chose de fondamental pour l'émergence du groupe des intellectuels. Il faut noter la différence avec les pétitions qui ont pu exister jusque-là, par exemple la pétition pour Descaves en 1889. On voit bien qu'il ne s'agit pas de signer pour quelqu'un qui est mis en cause ou qui a été condamné, mais il s'agit d'une façon originale, hein, d'accompagner le geste d'un écrivain, non pas de soutenir un accusé ou un condamné, mais d'écrire avec celui qui a écrit le texte, au fond le texte, hein, de le prolonger. Et c'est en cela que ces pétitions sont évidemment extraordinaires. Il faut observer, dernière remarque peut-être, ou avant-dernière remarque, que ceux qui signent en tête des pétitions sont importants, les têtes de liste sont absolument capital. En tête de la première pétition, on trouve les noms de Zola, Anatole France, Émile Duclos. Donc il y a l'Académie française avec Anatole France, Duclos, le directeur de l'Institut Pasteur. On voit comment ces titres de gloire sont là pour montrer que ceux qui signent ne sont pas n'importe qui. Duclos, c'est le successeur de Pasteur. Anatole France, qui prend des risques en signant, c'est l'Académie, il est le seul de l'Académie à signer. Puis en tête de la deuxième pétition, on a aussi le même effet de notoriété qui est lancé. Il faut noter, hein, vous le savez, mais l'engagement des savants dans l'affaire Dreyfus, certes, ils sont divisés comme tous les autres, tous les camps sont divisés, mais il faut noter ce mouvement d'adhésion de la part d'esprits scientifiques positivistes qui sont plus que d'autres peut-être heurtés par les invraisemblances de l'enquête et surtout par les bertillonnades, c'est-à-dire par les délires du fameux expert Bertillon. Dans ses réflexions, Reynac, que je vais encore citer, car il faut toujours revenir à Reynac au fond, soulève une question intéressante. Il se demande qui aurait été Dreyfusard autrefois, et voici ce qu'il dit. On évoquait les grands disparus, qui eut combattu pour la justice, Hugo certainement, et Renan. Pour d'autres, on se disputait leurs familles, leurs élèves, la famille intellectuelle, celle de Taines, celle de Pasteur, étaient divisées. J'aime bien cette citation de Reynac qui emploie le mot famille et qui nous rappelle en écho le fameux dessin de Carandage qui paraîtra au début du procès de Zola dans le Figaro en février 98. Vous le connaissez, je le rappelle d'un mot, hein, ce dessin représente les membres d'une famille assis autour d'une table. Il s'intitule « Un dîner en famille ». Le maître de maison dit « Surtout, ne parlons pas de l'affaire Dreyfus ». Et la planche suivante montre la table bouleversée, les assiettes jetées par terre, etc. Chacun en train de lutter. C'est un dessin célèbre hein, qui vraiment est resté et qui fait partie de ces citations de l'affaire Dreyfus, au fond, qu'on donne constamment. Alors, dernière remarque peut-être sur les pétitions, pour dire que ces pétitions paraissent dans des journaux qui les publient plus ou moins rapidement, avec des fautes, quelquefois des erreurs, qui seront corrigées plus tard dans le livre d'hommage des lettres françaises à Émile Zola, qui paraît en juillet 1898, et qui est au fond le texte qui va leur donner à ces pétitions leur forme définitive. Hein. Elles seront alors gravées dans le marbre, les listes seront corrigées, quelquefois un peu aménagées, et on voit dans ce livre d'hommage une centaine de contributions individuelles. C'est là que les choses sont intéressantes. À côté de ces pétitions, on voit une série de lettres de soutien adressées à Zola. On voit aussi cette dimension internationale que prend le soutien à Zola. C'est un livre des lettres françaises, donc uniquement des textes en grande partie, majoritairement, disons, francophones, donc les Belges et les Français se regroupent, mais on voit quand même des lettres publiées venues de tous les pays, de Suède, d'Amérique, de Russie, d'Angleterre. Donc on a quelque chose là qui correspond à ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le programme de recherche qui est le nôtre. On a un texte particulier, le texte d'hommage, où finalement on peut lire une continuité de la pétition à la lettre de soutien. Hein, dans la lettre de soutien, il y a un geste privé, dans la pétition, un geste public, dans un cas, un texte personnel, c'est la lettre de soutien, suivie d'une signature où s'exprime l'émotion de celui qui parle, dans l'autre cas, dans la pétition, un texte impersonnel dont le but est de regrouper le plus de signatures possible, mais le même mouvement anime les pétitionnaires comme les auteurs de lettres de soutien, au fond, qui développent ce qu'ils auraient pu dire par une simple signature dans une pétition. Entre les deux, il me semble qu'on pourrait distinguer d'ailleurs une troisième forme, qui serait, on en a des exemples, la lettre à signature multiple, où on a à la fois un texte qui exprime une motivation, et puis des signatures regroupées, car ceux qui envoient des lettres à signature multiple ont fait l'effort de se regrouper, comme les pétitionnaires, de trouver un lieu commun dans lequel ils puissent se réunir pour signer. Hein, ces adresses collectives me semblent importantes. Le docteur Brigitte-Émile Zola, qui est ici, possède dans sa collection de nombreuses adresses collectives qui sont extraordinaires. Certaines ont pris la forme de volumes reliés qui ont été envoyés à Zola d'une façon extraordinaire. Voilà donc ce que je voulais dire sur ces pétitions. J'arrive à la fin de mon exposé. J'aimerais encore parler d'une interview qui a été publiée en janvier 98 avant de vous proposer une conclusion sur l'affaire Dreyfus elle-même. Alors je voudrais évoquer devant vous, vous avez les citations sous les yeux, une interview justement qui n'est pas connue, qui ne se trouve pas dans le recueil de Dorothy Spears et de Dolores Signori, publié en janvier 1898, qui a été réalisé par l'anglais Robert Sherard. Cette interview, cela dit, je l'ai publiée moi-même dans le tome 18 des œuvres complètes, quand j'ai fait l'édition du tome 18, mais c'est une interview que j'avais retrouvée dans la presse, que j'ai retrouvée dans la presse américaine, bien sûr, mais que j'avais retrouvée à l'origine en travaillant dans le fonds Félix Faure aux Archives nationales. Elle se trouve là, cette interview, ce qui montrerait peut-être d'ailleurs que Félix Faure s'est quand même intéressé aux J'accuse d'assez près. Et ces interviews sont passionnantes. On les évoquait au début de notre réunion dans la période qui entoure la publication de J'accuse. Elles sont rares. Zola, évidemment, ne se livre pas beaucoup. Il en donne quand même quelques-unes avant son procès, mais il ne parle pas beaucoup. Et on a toujours, évidemment, cette inquiétude en les lisant de se demander si ce qui nous est proposé est vraiment ce que Zola a dit. Il y a un effet de transposition dans l'interview dont il faut tenir compte, d'autant plus que celle que je vais évoquer dans un instant, elle a été publiée en anglais, donc on ne connaît le texte que par une traduction, mais elle est tout à fait intéressante. Donc le texte a été publié à New York, le 26 janvier 1898, dans le New York Journal, qui est dirigé alors par un grand propriétaire de journaux de cette époque, William Hearst. Et comme je le disais, une traduction française s'en trouve dans le fonds Félix Faure, c'est celle que j'ai utilisée quand j'ai publié ce texte dans les œuvres complètes. C'est William Hearst, le propriétaire du journal de New York, donc, qui est à l'origine de l'interview. Il voulait à tout prix, après le J'accuse, avoir l'opinion de Zola. Il a réussi à convaincre le Britannique Robert Sherard, qui connaissait Zola, d'aller au domicile de Zola, qui refusait d'ailleurs de répondre aux journalistes, et Zola a finalement accepté. Sherard connaissait Zola, vous le savez, hein, en 1893, il avait publié la première biographie de Zola écrite en langue anglaise, Biographical and Critical Study, en 1993, une biographie tout à fait intéressante qui est souvent utilisé hein, comme une des sources que nous avons sur la vie de Zola. Et Zola, donc, avait retrouvé Sherard en 1893 quand il était allé à Londres au congrès des journalistes, et il le retrouvera ensuite au moment de son exil en Angleterre. Bon, il faisait partie de ces étrangers à qui Zola se confiait volontiers. Ce que j'aime dans cette interview, c'est en effet ce qu'elle donne comme geste de la part de Zola. J'en cite simplement deux passages et je vous renvoie pour la suite à ce que vous trouverez dans le tome 18. D'abord, ce passage qui est le suivant. Où Zola se montre finalement assez confiant après son j'accuse. Il dit ceci, la détention de Dreyfus est une monstrueuse iniquité et chacun derrière la coulisse le sait, mais tous, pour quelques motifs, veulent attendre. Il y a les élections prochaines, des marchandages qui ont eu lieu, il faut s'y conformer. Des députés qui, par leur vote d'aujourd'hui, ont paru condamner mon attitude, sont plutôt anxieux de leur réélection. Et celle-ci passée, la révision viendra dans les formes régulières et passera comme une chose naturelle. Dites au peuple américain, par la voix du journal, que, aussi sincèrement que je vous parle, l'innocence de Dreyfus sera reconnu et il deviendra un homme libre. Cela mettra quelque temps, mais cela viendra. Voilà, un Zola optimiste qui le sera peut-être un peu moins après son procès. Deuxième extrait, plus intéressant peut-être, car Zola évoque les lettres de soutien qu'il reçoit. « Je me suis rangé avec les amis de Dreyfus, complètement seul, ayant tout et tous contre nous. Le gouvernement, à cause de l'erreur commise, les classes moyennes, aveuglées et incapables de raisonner, le peuple infecté de la peste de l'antisémitisme. Nous n'avons que des journaux à petit tirage, tandis que contre nous se dressent tous les journaux de France, et particulièrement le Petit Journal avec son million d'exemplaires. Hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'horreur n'a tiré ce jour-là qu'à 300 000. Le Petit Journal, lui, fait un million. Le Petit Journal avec son million d'exemplaires, et qui tous les jours me pose en ennemi de la France, parce que l'étranger approuve mon attitude. Mais j'ai aussi reçu de chaudes lettres d'encouragement des Français. J'en reçois environ 500 par jour. Est-ce que le chiffre est exact, je ne sais. Mais en tout cas, il dit 500 par jour, dont 5% environ contiennent des insultes. Très peu d'insultes. Donc, je doute que toutes mes lettres me parviennent. Et l'interview se termine par une mise en scène que j'aimerais évoquer, qui est intéressante. Il tire d'une de ces lettres qu'il reçoit, d'un correspondant anonyme, dit-il, un extrait qu'on lui a envoyé de la vie de Jésus de Renan. Un extrait qui est l'avant-dernier chapitre de la vie de Jésus, un extrait intéressant qu'il lit devant Sherard, où Renan dit que dans la condamnation du Christ, le pouvoir civil romain est responsable. Bien sûr, la communauté juive qui a condamné le Christ, mais le pouvoir civil est responsable. Il porte aussi, dit Renan, la responsabilité de cette condamnation. Donc, Zola lit ce texte qu'il a frappé de Renan et il dit qu'il va le transmettre à son avocat, pour que son avocat l'utilise dans son plaidoyer. Laborie, quelques jours plus tard, un mois plus tard, n'utilisera pas ce passage dans sa plaidoirie, mais c'est Clémenceau, qui, à ce que Zola lui a transmis le texte de Renan, je ne sais pas, qui indirectement quand même fera cette référence, dont nous avons déjà entendu parler avec Andrew Counter, vous en souvenez, en janvier, qui est effectivement essentielle, cette référence qui est la comparaison entre la situation du Christ et celle de Dreyfus. Il le fait à la fin de sa plaidoirie, qui est plus courte que celle de Laborie, le 23 février, on le voit se tourner solennellement vers la statue du Christ, qui est accroché dans la salle des débats, il dit ceci, ça c'est du Clémenceau, c'est superbe. Messieurs, quand l'heure des injures est passée, quand on a fini de nous outrager, il faut bien répondre. Et alors que nous objecte-t-on la chose jugée. Regardez-la, messieurs, voyez ce Christ en croix. La voilà, la chose jugée. On l'a mise au-dessus du juge pour qu'il ne fût pas troublé de cette vue. C'est à l'autre bout de la salle qu'il faudrait placer l'image, afin qu'avant de rendre sa sentence, le juge eût devant les yeux l'exemple d'erreur judiciaire que notre civilisation tient pour la honte de l'humanité. Le compte-rendu des débats, évidemment, indique mouvement dans la salle. Vous vous doutez des mouvements dans la salle qui se sont produits. Voilà ce coup d'effet, ce coup de théâtre, quelque sorte, ou ce petit coup de théâtre de Clémenceau à la fin du procès de Zola, ce qui n'empêchera pas Zola d'être condamné. Mais Zola reprend ce thème, il le reprend à différentes reprises, notamment dans sa lettre à Madame Alfred Dreyfus, ce très beau texte qui paraît dans l'Aurore le 22 septembre 1899, peu après la grâce accordée à Dreyfus, et j'ai voulu vous donner cette citation, la voici, « Lorsque la religion du Christ avait mis 4 siècles à se formuler, à conquérir quelques nations, la religion de l'innocent, condamné de foi, a fait d'un coup le tour du monde, réunissant dans une immense humanité toutes les nations civilisées. » Vous voyez que nous rejoignons le thème que nous avions évoqué en janvier dernier. Alors, en terminant sur ce point, et avant de conclure, mais je prendrai quelques temps pour conclure, juste souligner quand même, en évoquant cette interview, cette rencontre que je trouve belle entre Zola et Hearst. Hearst, c'est, vous le savez, le héros de Citizen Kane d'Orson Welles. C'est un grand directeur de journaux et je trouve intéressante cette rencontre au moment de l'affaire Dreyfus entre, d'une certaine façon, deux grands acteurs qui, chacun à leur manière, ont illustré l'histoire du journalisme mondial en devenant des figures emblématiques du combat pour l'expression de la vérité. Voilà. Voilà mon commentaire de J'accuse. J'ai voulu, comme vous le voyez, me centrer sur l'objet médiatique qu'était J'accuse. J'ai voulu l'insérer dans une suite textuelle qui va de l'article lui-même à l'affiche, à la pétition qui a été qui s'est poursuivie dans la presse et jusqu'à cette interview que j'évoquais. Dernière remarque, ce sera ma conclusion. Pourquoi aujourd'hui parle-t-on toujours tellement de J'accuse? Évidemment pour de multiples raisons, parce qu'il est devenu un modèle, une matrice d'écriture. Je dirais simplement que ceux qui accusent aujourd'hui ne font pas comme Zola l'autre demande qui consiste à dire « je demande à être accusé », ils se contentent d'accuser, mais enfin bon. En tout cas, ce J'accuse, évidemment, est un modèle rhétorique, donc il est célèbre, il est comme l'emblème de l'article de journal libre. Mais il y a une raison, me semble-t-il, importante qui fait qu'aujourd'hui, on a toujours envie de citer J'accuse, c'est que, finalement, c'est là-dessus que je terminerai, ce récit historique que Zola propose de l'affaire Dreyfus demeure toujours vrai. C'est un récit qui n'a pas été démenti, alors qu'il aurait pu l'être, par les recherches historiques qui, depuis un siècle, se tiennent sur l'affaire Dreyfus. Certes, vous allez me dire, une objection bien sûr à ce que j'affirme, Zola, dans son J'accuse, méconnaît le rôle important de Henri, du lieutenant-colonel Henri. Il charge du paty de Clam d'une manière qui peut sembler excessive quand on connaît l'histoire de l'affaire Dreyfus. Mais on peut très bien contourner cette objection en disant que ce que Zola dit contre Dupaty de Clam, finalement il pourrait le dire aussi contre Henri. D'une certaine façon, Dupaty et Henri tiennent le même rôle dans cette machination. Et si on confond en quelque sorte les deux personnages de Dupaty et de Henri, si on imagine qu'Henri est derrière Dupaty, Zola a entièrement raison. Et pourquoi est-ce qu'il a raison? Parce que il analyse, et c'est le sens de la péroraison, avec une grande lucidité, le mécanisme de la machination politique qui s'est mise en place et dans laquelle est enfermé Dreyfus. Il n'accuse pas Esterhazy, comme je le disais, mais il analyse un mécanisme judiciaire. Et cette thèse, qui est une thèse qui n'est pas évidente, c'est exactement la thèse que les historiens de l'affaire Dreyfus défendent aujourd'hui. Le scandale de l'affaire Dreyfus, ce n'est pas qu'une erreur judiciaire ait été commise à l'origine. Le scandale de l'affaire Dreyfus, c'est que ceux qui ont eu les moyens de revenir sur cette erreur judiciaire n'aient pas voulu le faire pour protéger un corps, une institution, cette armée que l'on voulait défendre à tout prix, pour la mettre à l'abri de toutes les critiques. Et ça, c'est ce que disent tous les grands historiens d'aujourd'hui de l'affaire Dreyfus, qui font la synthèse qui doit être faite. C'est ce qu'a dit Marcel Thomas il y a déjà de nombreuses années, mais c'est ce que disent aujourd'hui avec plus de force un homme comme Vincent Duclerc, auteur d'une biographie de Dreyfus parue en 2006. C'est ce que dit Philippe Auriol dans cette grande histoire de l'affaire Dreyfus qu'il a publiée en 2014. Vincent Duclerc parle de crime d'État à propos de l'affaire Dreyfus. Philippe Auriol parle de machination à propos de l'affaire Dreyfus. Et ce mot de crime d'État, que Vincent Duclerc prononce, au fond, il se trouve bien dans J'accuse. Si vous lisez la fin de J'accuse, le mot qui est prononcé plus fortement encore que J'accuse, c'est crime. C'est un crime, dit Zola. Il le dit même 20 fois, alors qu'il dit plutôt seulement une dizaine de fois le mot de J'accuse. Donc l'affaire Dreyfus, voilà, c'est important de terminer en disant cela, c'est un crime d'État, comme le dit Vincent Duclerc, c'est une machination, comme le dit Philippe Auriol, ou c'est un crime bureaucratique, j'emploie une autre expression, c'est celle de Bertrand Joly, qui est aussi l'auteur, je vous le signale, d'une très belle histoire de l'affaire Dreyfus, publiée en 2014, elle s'intitule « Histoire politique de l'affaire Dreyfus ». Donc voilà, ce sont ces machinations, c'est cette machination qu'il fallait dénoncer, et que Zola clairement dénonce dès janvier 98 dans J'accuse. Aucun mystère ne subsiste. Esterhazy était un traître, un escroc de petite envergure, un escroc minable. Henri Lacouvert a produit ce faux en mars 1896 qui le mènera à sa perte parce qu'il a voulu éviter que l'armée ne soit mise en cause et il a cru protéger l'institution à laquelle il appartenait. Et Mercier, le général Mercier, le criminel en chef, est allé jusqu'au bout, y compris au moment du procès de Rennes, pour soutenir cette mascarade bureaucratique. Donc il n'y a pas de mystère, c'est clair. On sait qui était Mercier, qui était Henri, qui était Esterhazy. Bertrand Joly, que je vais citer, le dit très clairement dans son introduction à son histoire politique de l'affaire Dreyfus. Les rares zones d'ombre résiduelles sont nettement circonscrites et leur éclaircissement ne modifierait sans aucun doute guère notre vision globale des événements. Sauf découverte archivistique majeure, il n'y a donc peu de progrès significatif à espérer. Plus de mystère. Et pourtant, c'est là-dessus que je terminerai. Vous le savez, pendant un siècle, tant d'ouvrages ont été publiés qui ont voulu dire autre chose, qui ont voulu dire, bien sûr, Dreyfus était innocent, ça, le fait qu'il était coupable, seule l'action française le défendra dans l'entre-deux-guerres, et finalement, très peu iront jusque-là. Certes, dit-on dans ces ouvrages, Dreyfus est innocent, mais Esterhazy n'était pas coupable. Il était un agent double. Et vous voyez que si l'on pouvait défendre une telle thèse, si l'on pouvait dire que l'affaire Dreyfus est fondée sur, sans doute, l'histoire d'un innocent, mais aussi l'histoire complexe d'un Esterhazy qui a joué un rôle obscur, si on pouvait la raconter ainsi, cette affaire Dreyfus, évidemment, la vérité historique de J'accuse, ce serait une chose différente. Hein. On pourrait dire que sans doute Zola était courageux, mais qu'il s'est mêlé, sans le savoir, d'une histoire complexe dont il ne détenait pas toutes les clés. Et dans ce cas-là, on pourrait dire que J'accuse est un texte d'une grande naïveté sur le plan historique. Eh bien non, hein. Ce n'est pas le cas. Ces thèses sur le mystère, enfin, sur cette histoire mystérieuse de l'affaire Dreyfus, elle n'existe pas, ou plutôt elle n'existe que dans l'imagination de ceux qui l'ont conçue. Alors je les évoquerai en terminant. Différentes thèses ont été défendues. Une thèse que seul Henri Guillemin a défendue, qui est la thèse du troisième homme. Mais je rendrai quand même hommage à Henri Guillemin, l'auteur d'un grand livre sur l'affaire Dreyfus, qui en dehors de cette thèse a écrit de très belles pages sur l'affaire Dreyfus. Dans l'énigme Esterhazy, qu'il a publié en 1962, Henri Guillemin pense que, en fait, en accusant Dreyfus, en refusant de reconnaître son innocence, on a voulu couvrir un scandale qui aurait atteint le général Saussier, qui était le généralissime à l'époque, car un proche de Saussier avait peut-être livré des secrets à l'Allemagne. Et donc, on a voulu couvrir le généralissime. Bon, thèse du troisième homme. Hein. Derrière Esterhazy, il y a quelqu'un d'autre qui a trahi. Mais l'autre thèse, la plus courante, hein, défendue jusqu'à ces dernières années, c'est pourquoi j'aimerais l'évoquer, c'est la thèse d'une opération qui aurait mal tourné, que les services secrets français avaient conduite pour préserver les secrets du canon de 75. C'est quand même une thèse importante. Hein. C'est une thèse qui a été défendue dans beaucoup d'ouvrages par des historiens qui ont des titres d'historiens et qui méritent qu'on la rappelle. Cette thèse, dont se moquent alors avec grande vigueur Vincent Duclerc et Philippe Auriol, c'est l'histoire canon. Hein. Ils appellent cela l'histoire canon. C'est quand même une thèse troublante. Elle va loin parce que, je vous le rappelle d'un mot, cette thèse a été défendue dans différents ouvrages avec des variantes complexe, elle dit ceci. Dans le bordereau, il est question du canon de 120. Effectivement, on voit que les secrets qui auraient pu être transmis à l'ennemi concernent l'artillerie, qui est l'arme dont on essaie évidemment de développer le plus les possibilités à cette époque. Le canon de 120. Et donc, l'histoire est la suivante, c'est que les services secrets français auraient monté une opération d'intoxication grâce à Esterhazy pour attirer l'attention des Allemands sur le canon de 120, qui était un canon, en fait, qui n'était pas extraordinaire, pour les détourner d'un secret qu'ils ne devaient pas connaître, qui était les progrès que l'armée française avait réalisés en mettant au point le canon de 75, canon doté d'un frein rapide, je vous le rappelle, hein, qui a permis, dit-on, à la France de gagner la guerre de 14, ou du moins de résister à l'invasion allemande dans les premières années de la guerre de 14. Parce que le canon de 75, il est célèbre, il est dans tous les musées de la Première Guerre mondiale. C'est un canon à tir rapide, qui est mobile, qu'on déplace facilement, qui n'avait peut-être pas tous les mérites que l'on dit, mais enfin qui a permis effectivement à l'armée française de résister et que l'Allemagne n'avait pas au même degré. Donc vous voyez que si on raconte l'histoire ainsi, on peut dire que Dreyfus a souffert en martyr, mais après tout que son sacrifice a été utile, puisqu'il a permis à l'armée française, plus tard, de résister à l'invasion allemande. Alors, non, c'est une thèse évidemment imaginaire, hein, qui essaie de donner à l'armée le rôle qu'elle devrait avoir, qui essaie d'exonérer l'armée de cette culpabilité qui est la sienne, d'avoir couvert la trahison d'Esterhazy. Elle a été défendue par différents auteurs que j'évoque rapidement. Le premier qui l'a fait, c'est Armand Charpentier en 1937 dans l'entre-deux-guerres, et puis plus récemment Jean Doise dans un ouvrage publié en 1994 intitulé Un secret bien gardé, histoire militaire de l'affaire Dreyfus. Armand Israël dans un ouvrage publié en 2000, Les vérités cachées de l'affaire Dreyfus, et Jean-François Deniaud qui a donné un certain écho à cette thèse dans Le bureau des secrets perdus en 2000. Et encore en 1994, dans un des premiers ouvrages collectifs publiés à l'occasion des centenaires de l'affaire Dreyfus, le premier était 94, eh bien, Christophe Prochasson et Laurent Gervereau, qui dirigeaient cet ouvrage, donnaient la parole à Jean Doise, hein, qui pouvait écrire un article intitulé « Une histoire de canon ». Voilà. Aujourd'hui, ce serait évidemment impensable. Cette histoire canon est rejetée comme évidemment une façon de détourner le scandale de l'affaire Dreyfus par les historiens qui sont ceux qui ont fait les meilleures synthèses qui soient de cette histoire. Dernier point peut-être pour vous dire, ce mystère de l'affaire Dreyfus séduit toujours et peut se réfugier dans la littérature. Je pense à l'opéra Dreyfus, qui a été représenté à Nice tout récemment, en 2014, opéra que je n'ai pas vu, mais je crois que Jean-Sébastien Mack l'a vu, sur un livret du romancier Didier van Kovelaert, une musique du compositeur Michel Legrand, compositeur célèbre. Eh bien, cet opéra est intéressant parce qu'il met en avant le personnage d'Esterhazy, il lui donne la parole, il fait d'Esterhazy non pas un escroc minable, mais un personnage souffrant, tragique, porteur de secrets, peut-être manipulé par des puissances supérieures. Et le livret que Didier van Kovelaert a écrit pour cet opéra, qui par ailleurs a eu du succès, hein, je crois, en 2014, se fonde plus ou moins sur des idées qu'il avait développées dans un ouvrage publié antérieurement, Le journal intime d'un arbre, dans lequel, alors c'est assez étonnant, vous avez un chapitre extraordinaire. Le journal intime d'un arbre raconte l'histoire d'un arbre, hein, qui a assisté, car il est un arbre et qu'il a vécu pendant des siècles, à des conversations qui se sont tenues à son pied. Et dans un des chapitres, l'arbre rapporte cette conversation. Il a été témoin d'une rencontre entre le général Mercier et Alfred Dreyfus, qui s'est produite en 1921, après la Première Guerre mondiale, peu avant la mort de Mercier, qui meurt à peu près à ce moment-là, et Mercier se justifie devant Dreyfus, qui est éberlué, qui ne comprend pas trop ce que Mercier lui dit, mais se justifie en prétendant justement ceci, qu'il avait monté une opération destinée à tromper l'état-major allemand pour protéger les secrets du canon de 75, et que voilà, quand même, le résultat est là, la guerre a été gagnée. Hein, c'est évidemment une dérive imaginaire, et je conclurai en disant que le grand mérite de Jacques, c'est d'avoir, dès le début, échapper à cette dérive imaginaire. Je vous remercie.
Merci Alain pour cette conférence passionnante. Nous avions commencé en nous demandant, peut-on dire encore quelque chose de neuf sur l'affaire ? Et tu l'as prouvé, tu l'as démontré, et je trouve d'une manière très intéressante, à la fois, je dirais pour nous qui travaillons sur les archives, d'une manière empirique, c'est-à-dire en nous montrant que tous les documents que nous pouvons mettre en ligne finalement n'ont d'intérêt que s'ils sont tissés, liés les uns avec les autres, les uns dans les autres, contre les autres, avec des temporalités, avec des acteurs, des énonciateurs collectifs, plus ou moins individualisés, et qu'il y a là une vraie complexité critique à construire avec les données, les big data et les données empiriques d'aujourd'hui. Et si ça, on le loupe, si je puis dire, on perd une partie du projet intellectuel qui doit accompagner normalement nos opérations numériques. Donc je crois que c'est à la fois un champ que tu ouvres et en même temps un avertissement intellectuel critique par rapport à nos projets, notamment aujourd'hui au Centre Zola. Et puis, évidemment, il n'y a pas simplement ces circuits que tu as... bien sûr, on les connaissait, mais enfin, tu les as en quelque sorte configurés, ramassés, clarifiés pour nous. Donc, c'était tout à fait passionnant sur le plan empirique. Et puis, à la fin, évidemment, tu nous montres que l'affaire Dreyfus est presque aujourd'hui à la hauteur d'un mythe moderne, un mythe de l'histoire, entre histoire et fiction, et qu'il y a malgré tout un danger à ce que l'histoire se mythifie, un danger aussi d'une mystification intellectuelle à travers des versions qui, finalement, peuvent... rebrasser un peu les cartes et sans doute vraisemblablement modifier les représentations collectives que nous avons de l'affaire Dreyfus et de ses enjeux de valeur. Donc je crois que là aussi, nous avons en termes d'éducation un rôle important.